genovese, giornaliste à Bruxelles, où je suis l'actualité de l'Union européenne.
Et bonjour, moi c'est Hermine, je suis également journaliste à Bruxelles.
Dans cet épisode des Voix de Bruxelles, nous verrons comment la guerre en Ukraine a modifié la politique européenne de défense commune, ou du moins sa perception dans les pays européens. En effet, l'une de ses conséquences de cette guerre sur le continent européen est un support et un effort croissant afin de renforcer les capacités de défense de l'UE. Mais au-delà du soutien à l'effort de guerre de l'Ukraine, quelle est la vision d'une politique européenne de défense?
L'Union européenne est avant tout une union politique et économique. Sa dépendance en matière de défense vis-à-vis de l'OTAN et des États-Unis est donc bien acceptée et reconnue. Cependant, la guerre dans l'arrière-cour même de l'Europe a fait vibrer des sonnettes d'alarme à Bruxelles et dans toutes les capitales européennes. Les dirigeants européens ont finalement accepté le fait que la réévaluation des capacités de défense et de sécurité de l'Europe permettrait au bloc d'agir, même seul si nécessaire.
La guerre a marqué un Zeitenwende, un pivot dans l'histoire, selon les mots désormais célèbres du chancelier allemand Olaf Scholz au Bundestag. Elle a marqué les changements cruciaux dans les politiques de défense de l'UE. Premièrement, la plupart des pays de l'UE ont choisi d'augmenter leur budget de défense. Si à la suite de la guerre en Ukraine, l'OTAN a demandé à ses membres de consacrer 2% de leur PIB à la défense, de nombreuses capitales de l'UE se sont engagées à débourser encore plus.
L'exemple le plus frappant de ce changement de mentalité provoqué par la guerre en Ukraine est celui de l'Allemagne, qui a relevé de 100 milliards d'euros ses dépenses de défense au cours des 4 prochaines années. D'autres pays envisagent de faire de même. Telle la France, Paris vise à verser plus de 400 milliards d'euros entre 2024 et 2030 à son budget défense, soit une augmentation de 295 milliards d'euros par rapport à la période précédente. Les Pays-Bas, qui ont annoncé un engagement de plus de 19 milliards d'euros par an d'ici 2024, et la Pologne, qui devrait augmenter son budget de la défense à 4% de son PIB en 2023 contre 2,4% en 2022. Même des pays traditionnellement neutres, comme l'Autriche, ont augmenté leur budget militaire. Vienne s'est engagée de porter son budget de la défense à 1,5% du PIB, avec 16 milliards d'euros sur les 4 prochaines années. Plusieurs pays envisagent également de relancer différentes formes de services militaires, format 2.0.
Cette évolution s'inscrit en fait dans une tendance à plus long terme, remontant au moins à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Déjà en 2021, le financement total de la défense européenne a dépassé pour la première fois les 200 milliards d'euros, selon un rapport de l'Agence européenne de défense. Pourtant, la guerre en Ukraine a accéléré cette tendance. Selon une évaluation de McKinsey, les pays européens de l'OTAN augmenteront leur financement de 53 à 65% d'ici 2026, contre un scénario de base de 14% si la guerre n'avait pas eu lieu. Pour mieux comprendre les sens de ces déménagements, j'ai contacté Marie Bretou, de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, experte dans ces domaines. Madame Bretou, quel rôle la guerre en Ukraine jouait-elle dans la construction de la défense de l'UE?
Throughout these last 2 months and ever since, you know, the brutal attack of Russia in Ukraine.
Tout au long de ces 2 derniers mois, et depuis l'attaque brutale de la Russie en Ukraine et le début de la guerre, nous avons vu que l'Union européenne et tous ses États membres se sont vraiment mobilisés et se sont engagés à soutenir l'Ukraine, notamment en envoyant des armes létales, vers une zone de guerre active sur le sol européen, ce qui est vraiment une première. Et ce n'était certainement pas attendu et, je suppose, très bien accueilli par la communauté internationale de la sécurité. Car l'Union européenne a vraiment été en mesure de se renforcer en tant qu'acteur ces derniers mois et surtout d'apporter un soutien substantiel à l'Ukraine.
Cependant, au-delà du soutien à l'Ukraine et de l'engagement nécessaire avec l'OTAN, existe-t-il une vision claire d'une politique ou d'une stratégie de défense à l'échelle de l'UE ? Les États membres de l'UE sont-ils en mesure d'envisager conjointement une allocation équilibrée de leurs ressources afin de répondre aux besoins européens de défense et de sécurité, basés sur des priorités partagées afin d'éviter la fragmentation et de gagner en échelle ? À commencer par le matériel militaire. Au sein de l'Union, alors que l'achat d'équipements militaires est encore principalement mené par les autorités nationales, certaines initiatives à l'échelle de l'UE semblent ces derniers mois ouvrir la porte à une coopération transfrontalière accrue.
Premier instrument commun créé et utilisé par l'UE, la Facilité européenne pour la paix est destinée, malgré son nom, à financer l'assistance militaire dans le monde avec des fonds européens. Lancée en 2021, la guerre en Ukraine lui a donné un coup de pouce massif. Auparavant utilisée pour financer des missions de formation dans des pays comme le Mali, la Somalie et le Niger, l'argent du FEP sert désormais à acheter des armes pour un pays en guerre, c'est-à-dire à rembourser les frais d'approvisionnement de l'Ukraine par ses États membres. Pour l'Ukraine, l'UE a dépensé 3,6 milliards d'euros, soit plus de la moitié du budget total du FEPE jusqu'en 2027. Mais comment le soutien militaire à l'Ukraine peut-il affecter les budgets de la défense de l'UE, Marie ?
Actuellement, les efforts de l'Union européenne et de la Facilité européenne pour la paix visent à soutenir l'Ukraine. Mais, cela étant dit, je pense que l'Union européenne envisage vraiment, pour le prochain cycle du cadre financier pluriannuel, de contribuer davantage, avec plus de budget, à la politique de défense, qui, au cours de la dernière année, avait relativement diminué. Donc, je pense que nous avons ouvert une nouvelle page en termes de budget de défense à venir.
D'autres éléments semblent également suggérer une nouvelle vision conjointe de la manière dont les États membres de l'UE devraient agir dans ce domaine. Le lancement du Fonds européen de la défense, doté d'un budget de près de 8 milliards d'euros pour la période de 2021 à 2027, a constitué une avancée. Pour la première fois, le budget de l'Union a été alloué aux dépenses de défense. Un autre programme aide les 27 États membres à faire équipe sur les dépenses de défense, le renforcement de l'industrie européenne de défense par le droit commun des marchés publics, ou EDIRPA, bénéficie d'un montant de 500 millions d'euros, ouvrant également la voie à un futur programme européen d'investissement dans le secteur de la défense.
Cependant, le maintien de la cohésion et la garantie de l'unité constituent probablement les principaux défis qui attendent l'UE, notamment parce que certains États membres, en particulier à l'est de l'Europe, tels les pays baltes, préfèrent s'appuyer sur l'OTAN pour leur sécurité. Je me suis rendu à la session plénière du Parlement européen à Strasbourg pour rencontrer Andrius Kubilius, ancien premier ministre lituanien et maintenant membre du Parlement européen avec les partis populaires européens.
All the EU member states now, with very small exception, you know, are members of NATO.
Tous les membres de l'Union européenne, à des mineures exceptions près, sont membres de l'OTAN. Mais quand on commence à parler des capacités de défense européenne, on dirait que c'est en dehors de l'OTAN, et ça crée une sorte de confusion. Que voulons-nous faire ? C'est pourquoi, du côté européen, nous devons en quelque sorte parvenir à une compréhension plus claire de ce que nous voulons réaliser. Parce que quand quelqu'un parle d'une armée européenne ou quelque chose de similaire, surtout dans nos pays, dans les pays baltes, qui attendent que l'OTAN soit l'institution au centre de notre sécurité, nous avons très peur d'une sorte de fragmentation et d'affaiblir l'OTAN.
La question de la coordination entre ces initiatives de défense et de sécurité de l'UE et l'action de l'OTAN est en effet un enjeu clair pour l'avenir, comme nous l'avons vu dans mon précédent épisode. En outre, plusieurs aspects liés à la coopération multinationale au sein de l'UE pourront ralentir la planification de la défense commune. Les différences de langue et de culture, les facteurs historiques et géographiques, et les intérêts industriels nationaux.
Par conséquent, Malgré les avantages évidents d'une coordination au niveau de l'UE en termes d'échelle et d'allocation budgétaire sectorielle, de nombreux gouvernements de l'UE n'envisagent pas encore de coordonner leurs achats militaires au niveau européen. Comme indiqué dans le rapport 2022 de l'Agence européenne de défense, les États membres n'envisagent généralement la coopération que lorsqu'elle coïncide avec des plans nationaux, profite à l'industrie nationale ou consolide un partenariat stratégique.
Ce qui semble faire défaut, c'est un objectif commun et partagé entre les pays de l'UE. Membre Kubilius, quel obstacle voyez-vous au développement d'un système de défense européen commun ?
Si nous parlons du système de défense européen, de quoi parlons-nous ? Parce que les ressources nécessaires sont très importantes et que les États membres ne sont pas en mesure de disposer de ressources distinctes pour les capacités militaires de l'Union européenne et pour les capacités militaires de l'OTAN.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais je continuerai d'explorer ces questions de défense européenne dans mon prochain épisode. À bientôt donc.